Les aventures de Tom Sawyer, chapitre 4, l'école du dimanche. Le soleil se leva sur un monde paisible et éclaira le village de ses bienfaisants rayons. Après le petit déjeuner, la tante Polly s'acquitta de ses devoirs familiaux. Elle fit un commentaire des Saintes Écritures où son originalité se donnait libre cours et pour finir, lut un austère chapitre de la loi de Moïse, tout comme si c'était elle qui fût descendue du Sinaï. Puis Tom se saignit les reins, si j'ose dire, et se mit à l'œuvre pour étudier ses leçons. Sid savait les siennes depuis longtemps. Tom devait réciter au pasteur 5 versets de la Bible. Il choisit ceux du sermon sur la montagne, parce que c'étaient les plus courts qu'il eût pu trouver. Il consacra toute son énergie à les apprendre par cœur. Au bout d'une demi-heure, Tom avait de sa leçon une idée générale assez imprécise, sans plus, car son esprit vagabond avait exploré tous les domaines de la pensée humaine et, de leur côté, ses mains avaient trouvé en route de nombreux sujets de distraction. Mary prit le livre pour lui faire réciter ce qu'il avait appris. Il annonna. Bienheureux les pauvres. Oui, les pauvres. « Bienheureux les pauvres, d'esprit, bienheureux les pauvres d'esprit parce que bienheureux les pauvres d'esprit parce que le royaume des cieux leur appartient. Bienheureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront, eux. Pourquoi ne me dis-tu pas où ils seront, Mary? Ce n'est pas gentil de ta part. Oh, voyons, Tom, tu crois que je fais cela pour te taquiner? Mais non, seulement tu ne sais pas ta leçon. Il faut recommencer à l'apprendre. Ne te décourage pas, tu peux très bien. Et si tu la sais, je te donnerai quelque chose que tu aimes bien. Oh, qu'est-ce que c'est, Mary? Dis-moi. Pas maintenant, Tom. Si je te dis que c'est quelque chose que tu aimes bien, c'est quelque chose que tu aimes bien. Bon, je vais m'y mettre. Et il s'y mit, poussé autant par la curiosité que par l'appât du gain. Il s'y mit tellement bien qu'il réussit. Mary lui donna un canif à 13 sous, et Tom ne s'en tenait plus de joie. À vrai dire, le canif ne coupait guère, mais c'était bel et bien un canif, un véritable Barlow, avec tout ce que ce nom signifiait de sensationnel, quoiqu'il fût difficile de s'imaginer qu'on pût tirer profit de la contrefaçon d'une telle pacotille, à supposer qu'elle fût pire que l'original. Enfin, c'est là un mystère, et cela en sera probablement toujours un. À l'aide duquel, Tom se mit en devoir de creuser des rainures dans la commode. Il allait s'attaquer au bureau quand, heureusement, on l'appela afin qu'il s'habillât pour aller à l'école du dimanche. Mary lui donna une cuvette d'eau et un savon. Il sortit, mit la cuvette sur un banc, trempa le savon dans l'eau et le déposa sur le banc, retroussa ses manches, versa délicatement l'eau par terre, rentra dans la cuisine et commença à se frotter énergiquement la figure avec le torchon pendu derrière la porte. Mary lui retira le torchon des mains. « Tu n'as pas honte, Tom ?» L'eau n'a jamais fait de mal à personne. Interloqué, Tom ne sut quoi dire. Remis en présence de la cuvette, il poussa un profond soupir et s'exécuta. Un moment après, les yeux fermés, il rentra dans la cuisine à tâtons, cherchant le torchon. L'eau savonneuse qui lui dégoulinait de la figure semblait témoigner de louables efforts de sa part. Mais, après essuyage, il devint évident que la partie nettoyée de la figure de Tom formait un masque s'arrêtant au menton et aux pommettes. Au-delà de ses limites s'étendait une zone qui n'avait pas participé aux bienfaits des ablutions. Avec l'aide de Mary, la peau de Tom put prendre une teinte uniforme. Ses cheveux, légèrement humectés, étaient bien brossés. Ses boucles symétriquement disposées de part et d'autre de son front. Aussitôt qu'il fut seul, il s'appliqua laborieusement à lisser sa chevelure et à aplatir ses boucles, qui le remplissait d'amertume parce qu'il trouvait que cela faisait efféminé. Puis Mary sortit de l'armoire un complet réservé au dimanche depuis 2 ans, qu'on appelait « ton autre vêtement », ce qui nous permet de connaître l'étendue de sa garde-robe. Quand il fut habillé, la jeune fille passa une dernière inspection. Elle ramena le col de sa chemise par-dessus sa veste qu'elle déboutonna, lui donna un coup de brosse et le couronna de son chapeau de paille. Il avait un tout autre air, mais paraissait mal à l'aise. Et il l'était, car tous ses vêtements, toute cette propreté, impliquaient une politique de contrainte qui l'exaspérait. Il espérait que Mary oublierait ses souliers, mais, là encore, son espoir fut déçu. Elle les passa consciencieusement au suif, selon la coutume, et les lui porta dehors. Il se fâcha et prétendit qu'on ne lui faisait jamais faire que des choses qui ne lui plaisaient pas. Mais Mary tint bon. « Allons, allons, Tom, sois gentil. » Et il se mit ses souliers tout en grommelant. Mary fut bientôt prête et les 3 enfants se mirent en route pour se rendre à l'école du dimanche, au grand plaisir de Sid et de Mary et au grand désespoir de Tom. Le cours avait lieu de 9h à 10h30 et il était suivi de l'office religieux. Parmi les garçons, il y en avait toujours 2 qui restaient au sermon volontairement et d'autres pour des raisons plus péremptoires. Il y avait dans l'église d'inconfortables bancs permettant d'asseoir 300 personnes. L'église elle-même était petite, très simple, avec un clocher de bois. À la porte, Tom resta en arrière et aborda un camarade. « Dis donc, Billy, t'as un bon point jaune ?»«
Oui. »«
Tu veux me le céder ?»« Ça dépend de ce que tu en donnes. » Un bout de réglisse et un hameçon. Fais voir. Tom s'exécuta, le marché fut conclu. Puis Tom échangea 2 billes contre 3 bons points rouges et quelques autres bricoles contre 2 bons points bleus. Il arrêta d'autres camarades au passage et leur acheta toute une série de bons points de couleurs diverses. Un quart d'heure après, il pénétrait dans l'église avec un groupe de garçons et de filles bruyants et endimanchés. Il se rendit à sa place et se prit aussitôt de querelle avec un voisin. Le maître, un homme âgé et grave, intervint, puis s'occupa d'autre chose. Tom tira les cheveux du camarade assis devant lui. Celui-ci se retourna, mais il trouva Tom absorbé dans sa lecture. Peu après, Tom piquait un autre camarade avec une épingle jusqu'à ce qu'il ait crié « Aïe !», ce qui lui valut une nouvelle réprimande. Tous les élèves de la classe étaient pareils, turbulents, dissipés, insupportables. Quand le moment vint de réciter les versets de la Bible, aucun d'eux ne se montra capable de le faire. Il fallait les leur souffler d'un bout à l'autre. Néanmoins, il suffisait de réciter à peu près convenablement 2 versets pour avoir un bon point bleu. Chacun finit par y arriver. 10 bons points bleus s'échangeaient contre un bon point rouge. 10 bons points rouges s'échangeaient contre un bon point jaune. Pour 10 bons points jaunes, l'inspecteur remettait à l'élève une Bible reliée qui, en ces temps heureux, pouvait bien valoir 2,50 francs. Combien de nos lecteurs se résoudraient à apprendre par cœur 2000 versets de la Bible, même pour recevoir une Bible illustrée par Gustave Doré? Et pourtant, mais oui, avait ainsi gagné 2 Bibles, résultant de 2 années de travail opiniâtre. On disait qu'un petit garçon d'origine allemande en avait gagné 4 ou 5 en récitant 3000 versets sans s'arrêter. Mais après un pareil effort, il en était resté à moitié idiot, ce qui fut une grande perte pour l'école, car dans les grandes occasions, en présence d'une assistance choisie, l'inspecteur, comme disait Tom, faisait briller son élève. Seuls les plus anciens gardaient patiemment leurs bons points jusqu'à ce qu'ils aient gagné une Bible. C'est dire que la distribution en était un événement rare et considérable. La désignation d'un lauréat créait une émulation telle qu'elle se prolongeait une 15 jours au-delà. Obtenir un prix, l'ambition de Tom n'allait peut-être pas jusque-là, toutefois, la gloire et la célébrité qui en résultaient ne le laissaient certes pas indifférent. À l'heure dite, l'inspecteur était devant l'estrade et réclamait le calme. Il avait à la main un livre de cantiques, son index entre deux pages. Quand un inspecteur de l'école du dimanche prononce la locution traditionnelle, il est de règle qu'il ait toujours un livre de cantiques à la main. Tout comme l'artiste qui chante un morceau de concert tient à la main une feuille de papier à musique. Pourquoi ? Personne n'en sait rien. Car l'inspecteur ne consulte pas plus son livre que l'artiste ne regarde sa feuille de papier. L'inspecteur était svelte, il pouvait avoir environ 35 ans. Ses cheveux, d'un blond roux, étaient courts. Sa barbe était taillée en boucle. Son col empesé, dont le bord supérieur lui atteignait presque les oreilles et dont les pointes se recourbaient en avant à la hauteur des coins de sa bouche, était fendu de telle sorte qu'il l'obligeait à regarder droit devant lui et à tourner tout le corps quand il devait regarder de côté. Son menton dominait une cravate aussi longue et aussi large qu'un billet de banque et dont les extrémités se terminaient par des franges. Les pointes de ses souliers étaient recourbées vers le haut, à la mode d'alors, comme des patins de traîneau. Il fallait, pour obtenir ce résultat, que les jeunes gens s'assissent devant un mur contre lequel ils pressaient, patiemment, laborieusement, leurs orteils des heures durant. Monsieur Walters était un très brave homme, à l'aspect austère. Il professait un tel respect pour les choses et les lieux du culte, il les distinguait si radicalement des choses mondaines et matérielles que malgré lui, sa voix des dimanches n'avait pas la même intonation qu'en semaine. Il commença en ces termes. « Mes enfants, je vous demande d'être aussi tranquille que possible et de m'accorder une ou deux minutes d'attention. » Là, c'est parfait. C'est ainsi que doivent faire des enfants bien élevés. J'aperçois une petite fille qui regarde par la fenêtre. Peut-être pense-t-elle que je suis perché sur un de ces arbres en train de faire un petit discours aux oiseaux. Sourire approbateur. Je veux vous dire combien je suis heureux de voir tant de petits visages intelligents réunis en ce lieu pour y apprendre à faire le bien et à bien se conduire. Etc. Tous les discours de ce genre se ressemblent et vous les connaissez trop pour que j'éprouve le besoin de vous rapporter la suite. Le dernier tiers fut troublé par une reprise d'hostilité entre garçons et d'autres manifestations de leur activité, ainsi que par des chuchotements et des bavardages gagnant de proche en proche, sans toutefois réussir à dissiper ces modèles d'incorruptibilité qu'étaient Sid et Mary. L'agitation finit en même temps que le discours de M. Walters, dont la fin fut accueillie par un silence reconnaissant. Les chuchotements avaient été provoqués par un événement assez rare, l'entrée de visiteurs, en l'espèce du juge Thatcher, accompagné d'un vieillard à cheveux gris et d'une dame imposante qui, sans aucun doute, était sa femme. La dame donnait la main à une petite fille. Jusque-là, Tom avait été insupportable. Il bougeait tout le temps, il s'agitait, il geignait. Il éprouvait aussi des remords de conscience, à en juger par les manœuvres auxquelles il se livrait pour ne pas rencontrer le regard d'Amy Lawrence, dont il n'aurait pas su supporter les œillades enflammées. Et quand il vit la nouvelle venue, il ne tint plus en place. Dès lors, il n'eut d'autre préoccupation que de se faire remarquer. Aussitôt, il commença à bousculer ses camarades, à leur tirer les cheveux, à faire des grimaces. En un mot, il mit en œuvre toutes les ressources de son imagination pour attirer l'attention d'une jeune fille et, croyait-il, pour gagner son admiration. Son allégresse n'était tempérée que par le souvenir de l'humiliation subie dans le jardin de sa nouvelle passion. Souvenir écrit sur le sable et promptement effacé par les vagues du bonheur qui, à présent, l'envahissaient. On donna aux visiteurs la place d'honneur et, dès que M. Walters eut terminé son allocution, il les présenta aux élèves. Le vieux monsieur se révéla être un personnage considérable, quelque chose comme le juge du comté, certainement la plus haute autorité que les enfants aient jamais vue. Ils étaient curieux de voir comment était fait quelqu'un d'aussi important, et aussi de l'entendre parler, tout en ayant un peu peur. Il venait de Constantinople, une ville des États-Unis située à quelques 20 km de Saint-Pétersbourg. Il avait donc vu du pays. Il siégeait au tribunal du comté, dont on disait qu'il avait un vrai toit de zinc. Le silence impressionnant qui régnait et la fixité de tous les regards témoignaient du respect provoqué par ces considérations. Il ne s'agissait de rien moins que du grand juge Thatcher, frère de leur propre avoué. Jeff Thatcher s'approcha immédiatement de son père et du grand homme pour prouver qu'il était sur un pied d'intimité avec le dernier et exciter la jalousie de toute la classe. Que n'eût-il donné pour entendre les chuchotements ? « Regarde-le, Jim, le voilà qui monte. Dis donc, il va lui serrer la main. Il lui serre la main. Ah, ce que je voudrais être à sa place !» L'inspecteur, succombant à son tour à l'envie de se faire remarquer, allait et venait, donnait des ordres et des contre-ordres, s'occupait de tout et de rien. Le bibliothécaire, lui aussi, courait ça et là, les bras chargés de livres, faisant rendre le maximum au peu d'autorité qu'il avait. Les jeunes institutrices faisaient ce qu'elles pouvaient pour attirer l'attention, complimentant aujourd'hui l'élève qu'elles avaient rudoyé la veille, faisaient des efforts de doigts en parlant à l'un, en avertissant l'autre. Les jeunes professeurs gourmandaient celui-ci, faisaient des recommandations à celui-là, les uns et les autres ayant, comme par hasard, affaire à la bibliothèque près de l'estrade, ce qui les amenait à s'y rendre deux ou trois fois avec de grandes démonstrations d'activité. Les petites filles s'agitaient et les garçons s'envoyaient des boulettes de papier. Le grand homme, assis, regardait les uns et les autres avec une sérénité souriante et se complaisait au spectacle de sa propre grandeur, car il se faisait valoir lui aussi. Au bonheur de M. Walters, il ne manquait qu'une chose, pouvoir exhiber un élève prodige à qui il remettrait une Bible en prix. Quelques élèves avaient plusieurs points jaunes. Aucun n'en avait assez, il s'en était assuré. Il aurait donné n'importe quoi pour avoir sous la main ce petit garçon allemand à la mémoire si extraordinaire. À ce moment précis, où tout espoir paraissait interdit, Tom Sawyer s'avança, muni de 9 bons points jaunes, 9 bons points rouges et 10 bons points bleus. Tom Sawyer réclamait une Bible. Coup de tonnerre dans un ciel serein. Walters n'avait pas envisagé qu'une demande de ce genre pût se produire avant 10 ans. Mais il n'y avait pas à tergiverser. Les bons points étaient là, signés par lui et parfaitement en règle. Tom prit place sur l'estrade à côté du juge et des autres personnages de qualité et la grande nouvelle fut officiellement proclamée. Depuis plusieurs années, on n'avait rien vu de pareil. L'événement était tellement sensationnel que la renommée du nouveau héros s'égala à celle de ses juges et que les spectateurs eurent en face d'eux deux célébrités au lieu d'une seule. Les garçons en étaient malades de jalousie. Les plus vexés étaient ceux qui se rendaient compte, mais un peu tard, qu'ils avaient eux-mêmes contribué à cette gloire maudite, en échangeant avec Tom leurs bons points contre les objets qu'il lui avait donnés la veille pour avoir le droit de badigeonner la palissade. Ils se mordaient les doigts d'avoir été les dupes de cette audacieuse supercherie. Le prix fut décerné à Tom en grande pompe, avec toutes les fusions dont l'inspecteur était capable, étant donné les circonstances. Tout au plus manquait-il un peu de conviction. L'instinct du pauvre homme lui faisait en effet pressentir l'existence d'un mystère qui lui peut-être était dangereux d'éclaircir. Il était difficile d'admettre que ce gamin, précisément celui-là, ait emmagasiné la substance de 2000 versets des Écritures dans un cerveau qui était manifestement hors d'état d'en assimiler plus d'une douzaine. Amy Lawrence était heureuse et fière, et elle essayait de le montrer à Tom, mais il ne faisait pas attention à elle. Un vague soupçon, qui devint vite un doute sérieux, s'empara de la pauvre fille. Un clin d'œil de Tom la renseigna. Son cœur se brisa. Elle devint jalouse, pleura. Elle se mit à détester tout le monde, et Tom par-dessus tout, du moins le croyait-elle. Tom fut présenté au juge, mais sa langue fut comme paralysée. Il n'osait pas respirer. Il défaillait presque. D'abord parce que le personnage était terriblement imposant, ensuite parce qu'il était son oncle à elle. Le juge posa la main sur la tête de Tom, l'appela « brave petit homme » et lui demanda son nom. Le gamin bégaya, haleta et finit par dire « Tom ». « Non, pas votre diminutif, votre nom, Thomas. » « C'est cela, je pensais bien que votre nom était plus long. Mais vous en avez un autre, et vous voudrez bien me le dire, n'est-ce pas ?»« Allons, dites à monsieur le juge quel est votre nom de famille, Thomas, » dit Walters. « Et dites, monsieur, n'oublions pas les convenances. »« Thomas Sauer, monsieur. »« Bien, voilà un gentil garçon et intelligent. » 2000 versets. Cela n'est pas mal. C'est même très bien. Et vous n'aurez jamais de regret de la peine que vous avez prise. L'instruction est ce qu'il y a de plus important au monde. C'est elle qui fait les grands hommes, les bons citoyens. Vous serez vous-même un jour un bon et grand citoyen, Thomas. Vous jetterez un regard en arrière et vous vous direz « Tout ce que je sais, je le dois à l'instruction » que j'ai reçu dans ma jeunesse à l'école du dimanche. Je le dois aux bons maîtres qui m'ont enseigné, au bon inspecteur qui m'a encouragé, qui m'a surveillé et qui m'a donné une belle, une magnifique Bible que j'ai gardée toute ma vie. Tout cela est le résultat d'une bonne éducation. Voilà ce que vous vous direz, Thomas. Et ces 2000 versets que vous avez appris, en vérité, vous ne les échangeriez pas pour tout l'or du monde. Maintenant, vous voudrez bien me dire, et à cette dame aussi, quelques-unes des belles choses que vous avez apprises. Je suis sûre que vous ne le refuserez pas, en petit garçon studieux que vous êtes. Certainement, vous connaissez les noms des 12 apôtres. Voulez-vous dire le nom des 2 premiers ? L'air penaud, Tom tirait nerveusement sur une boutonnière de sa veste. Il rougit et baissa les yeux. Monsieur Walters sentit le cœur lui manquer. « Il n'est pas possible, se dit-il, que ce gamin sache répondre à la question la plus simple. Pourquoi diable le juge lui a-t-il demandé cela ?» Et presque malgré lui, il put parler. « Répondez à monsieur le juge, Thomas, n'ayez pas peur. » De rouge, Tom devint cramoisi. « Allons, vous me le direz bien à moi, dit la dame. Les 2 premiers disciples étaient... David et Goliath. Peut-être vaut-il mieux tirer sur la fin de cette scène le voile de la charité.